Pierre Desperini, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous autour de votre livre qui vient de paraître aux éditions Fayard, « Que faire du passé ?» Réflexion autour de la cancel culture. Alors, on se permettra de le prononcer avec un accent minimum pendant cet échange. Pierre Desperini, vous êtes chercheur, vous êtes spécialisé autour des questions d'histoire antique et vous avez fait paraître plusieurs livres, alors qui sont déjà des livres qui, les uns et les autres, étaient à la fois des réflexions autour de la question de la culture et entre autres autour de la question dont la culture antique avait continué à vivre au sein de la culture européenne. Et on verra que ce rapport entre les deux est vraiment une question importante au sein des questions qui nous concernent aujourd'hui. Mais ce sont des livres, je pense aussi bien à celui sur Lucrèce qu'à celui sur Marc Aurèle, qui étaient aussi des livres qui avaient l'objet de démythifier, on va dire, des grands monuments, on ne va pas dire des statues, mais un peu, de la culture antique, en montrant que tout est toujours pris dans des questions historiques et politiques et qu'il est essentiel pour comprendre la culture de comprendre aussi le contexte de son émission. Alors, vous dites dans l'ouverture de votre livre que finalement, la cancel culture pose probablement l'une des questions les plus importantes aujourd'hui à la civilisation européenne. On verra aussi ce qu'on peut entendre par là, en posant cette question finalement qui est qu'est-ce qu'il faut faire de notre passé ? Et je pense que l'un des intérêts majeurs de votre livre, c'est justement de l'idée de dire il y a ici un débat. Il n'y a pas que des invectives, il n'y a pas que des insultes, il n'y a pas que de l'hystérie. C'est important de comprendre ce qui se joue en tant que débat, c'est-à-dire qu'en tant que rapport dialectique entre des forces qui s'affrontent, pour essayer de sortir par le haut, c'est-à-dire par le savoir, de ces rapports. Alors, peut-être tout simplement, pour commencer, ou s'ouvrir comme s'ouvre finalement votre livre, qui est de dire qu'est-ce qui, de votre point de vue, est visé par la cancel culture, c'est-à-dire quel est l'objet de son ressentiment, si on peut le formuler de cette façon. Et peut-être, le livre s'ouvre par une question qui est importante aussi, c'est que tout ce vocabulaire-là, on l'évoquera après aussi, les trigger warnings, ou ce genre de choses, est un vocabulaire anglais, enfin de langue anglaise, et plutôt d'importation américaine, je pense que c'est important, et de peut-être commencer aussi par ce que vous faites dans votre livre, c'est-à-dire une précision de vocabulaire, c'est-à-dire de quoi parle-t-on et pourquoi choisir ce mot-là plutôt que woke, par exemple, ou plutôt que d'autres mots qu'on entend actuellement autour de ces débats-là.
Merci, merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement riche. Je voudrais commencer par ce point que vous avez soulevé, c'est-à-dire le fait qu'en effet, il s'agit d'un débat. D'un débat qui se présente aujourd'hui. Et j'ai voulu, dans ce livre, prendre part à ce débat. Mais j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est un peu une première de publier un livre sans avoir, au départ, fait un travail systématique d'enquête scientifique, comme je l'ai fait dans mes précédents. Donc, mes positions dans ce livre et dont on va parler sont des positions qui sont incertaines, en quelque sorte. Alors, la question est, mais alors, pourquoi faire un livre si vous n'êtes pas certain des positions que vous soumettez au public? Eh bien, justement, parce que je pense qu'il s'agit d'un débat fondamental qui prend des tournures aujourd'hui de plus en plus extrêmes. Vous avez parlé des invectives, de l'hystérie. Et donc, j'ai senti une nécessité, un devoir, si on veut employer un terme un peu pompeux, mais en tout cas, une nécessité, tout simplement. Une nécessité, je ne pouvais pas, étant donné ce que je fais, étant donné ce que je suis, ne pas prendre part à ce débat avec toutes les incertitudes qui caractérisent la position de celui qui est un contemporain du débat, qui est un acteur lui-même, qui est lui-même déterminé par des tas de facteurs sociologiques. Mais ces limites étant posées, dans l'intérieur de ces limites, j'ai fait de mon mieux. J'ai travaillé le plus sérieusement possible, mais évidemment, je reconnais que ce livre n'a pas le statut des autres. Simplement, si j'avais voulu lui donner ce statut, j'aurais dû attendre des années et j'avais le sentiment d'une urgence. Donc, pourquoi est-ce que... Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ce débat? Pourquoi c'est important, à mon avis? Pourquoi il s'agit, à mon avis, d'une des questions les plus importantes de notre temps? Et c'est vrai que ça ne va pas de soi. Il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais tout ça, c'est une mode, ce qu'on appelle la cancel culture, le wokisme, etc. » Tout ça, c'est, bon, c'est des trucs un peu de journalistes, de médias, d'idéologues opposés, mais qui finalement se retrouvent dans une espèce de foire d'empoigne qui fait de l'audimat, qui plaît, etc., qui excite le public, et bon... Alors, effectivement, c'est une question que je me suis posée moi-même. Est-ce que, finalement, tout ça est une espèce d'écume à la surface de la mer? Ou est-ce qu'il se passe ici des choses importantes? Est-ce que cette écume cache des mouvements de fond dans l'océan? Vous voyez, ça, c'est une image qui vient de Léon Blum, les souvenirs sur l'affaire Dreyfus. Donc, l'affaire Dreyfus, est-ce que c'est bon, une affaire médiatique, politique, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses sociales derrière? Et mon sentiment, voilà, vous voyez, c'est un sentiment, c'est une intuition, ce n'est pas fondé sur une enquête systématique. Mon sentiment, c'est que c'est une chose, c'est un phénomène important, culturellement, enfin je veux dire pour l'histoire de la civilisation, réellement important. Puisque ce qui est en jeu ici, c'est la place de la culture européenne, et par culture j'entends la littérature, j'entends l'histoire, j'entends l'art, la place de la culture européenne dans notre société, et notamment, plus particulièrement, dans l'éducation, dans ce que nous allons transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était important de décrire quelque chose là-dessus. Pour finir maintenant sur votre question de vocabulaire, qui est extrêmement importante en effet, il y a pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de cancel culture et pas de wokisme, etc. Parce que j'ai choisi l'expression qui me paraissait la plus neutre. La moins étroite, la moins spécifique. Alors, je précise les choses. Parler de wokisme avec un isme, déjà, on présuppose l'existence d'une idéologie bien précise, unitaire, qu'on retrouverait chez les différents acteurs ou dans les différentes initiatives que l'on désigne par l'expression « cancel culture ». Donc, j'ai pas voulu utiliser ce mot-là. Je crois qu'il apparaît une fois dans le livre seulement. L'expression cancel culture, alors, est très intéressante parce que j'ai lu, et c'est peut-être vrai, que cette en français, donc culture de l'annulation, donc culture consisterait à effacer, à annuler, à détruire un certain nombre de personnes, d'œuvres. Donc, j'ai lu que cette expression venait de la droite américaine. C'est possible. L'auteur qui fait cette affirmation ne le justifie pas par des données précises. C'est possible. Mais mon sentiment est que c'est passé dans le langage courant sans nécessairement être péjoratif et que ça correspond en partie à une attitude réelle qu'on rencontre, c'est-à-dire consistant à dire non, il faut en finir avec telle et telle personne, telle et telle œuvre, parce qu'elle véhicule des valeurs sur lesquelles on va revenir, qui sont donc des valeurs inadmissibles, propres à la culture européenne, de patriarcat, de misogynie, de racisme, etc. Donc voilà, mais j'ai mis des guillemets justement pour dire voilà, c'est une expression et je pense que ça fait partie de cette incertitude dont je parle. C'est-à-dire que nous, dans notre vie sociale, nous recourons à des expressions qui sont imparfaites, mais autour desquelles nous nous comprenons à peu près et autour desquelles nous discutons. Mais il en va de même du langage courant en général. Bon, là, je peux vous renvoyer à des tas de travaux, de recherches philosophiques sur le langage ordinaire qui nous montrent que même le mot « planète », par exemple, le mot « planète » ne correspond pas à une définition qui puisse être jugée universelle. Le mot « religion », voilà. Donc, « cancel culture » est une expression imparfaite, mais voilà, c'est celle que nous avons pour parler d'un phénomène multiforme, mais à mon avis, bien réel. Et c'est vrai que, et je finirai là-dessus, et c'est vrai que parfois on rencontre l'idée parce que c'est une expression qui vient de la droite américaine, il ne faudra pas l'utiliser. Et puis, au fond, ça ne renvoie à rien. Il n'y a pas réellement d'initiative visant à annuler quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est faux. Et d'ailleurs, maintenant, je lisais tout récemment un article dans le journal de gauche The Nation, un article très intéressant d'une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Kata Polit, qui s'appelle « Non, la cancel culture existe ». Il y a bien des opérations visant à annuler des personnes parce qu'elles expriment des opinions jugées inadmissibles. Donc, voilà, j'ai pas voulu non plus faire comme si cette expression ne reposait sur rien, ne correspondait à rien, quelles que soient ses imperfections.
Oui, et puis c'est de toute façon, on le verra dans un deuxième temps, l'objet aussi de la deuxième partie de votre livre, où vous prenez, donc au-delà de la première partie qui revient sur la question de la culture, on va dire en soi, la deuxième partie est un ensemble de trois articles liés à des interventions que vous avez pu faire pour Philosophie Magazine, dans lequel, à partir de cas extrêmement concrets, celle de l'enseignement des classiques aux États-Unis, celle des trigger warnings autour de Shakespeare en Angleterre, et puis celle de la question du retrait des statuts de l'espace public, enfin de certaines statuts de l'espace public, vous prenez trois exemples concrets dans lesquels il y a effectivement soit des volontés annoncées, soit des réalisations objectives d'effacement, puisque c'est ça aussi un peu le sens du mot cancel, d'effacement de l'espace public ou de l'espace du débat d'un certain nombre d'éléments de la civilisation ou de la culture occidentale. Alors, justement, pour revenir à votre première partie, le sentiment qu'elle donne, c'est de dire, plutôt que de congédier par le mépris les revendications d'une partie de gens qui disent il y a un problème avec la culture occidentale, parce qu'on appelle la culture occidentale, et vous viendrez en détail dire ce qui est sous-entendu par là, parce que tout ça est aussi plein de sous-entendus, essayons de comprendre, puisque c'est l'objet de la science aussi, l'objet de la science, c'est de comprendre ce qui se passe, essayons de comprendre ce qui est désigné comme objet qu'on repousse, et qu'est-ce qui, objectivement, entre guillemets, dans la société occidentale, dans la culture occidentale, excusez-moi, peut faire l'objet de critiques. Et donc là, vous vous lancez dans une sorte de généalogie, un peu nietzschéenne, de se dire, ben, qu'est-ce que c'est finalement la société occidentale? Et ce que vous dites, c'est en fait, et je vous laisse la parole, en fait, la société occidentale, c'est la civilisation occidentale, excusez-moi, c'est la civilisation européenne, et la civilisation européenne, c'est la civilisation médiévale chrétienne, c'est-à-dire qui bascule au moment de la transition de l'Empire romain vers la chrétienté. Alors, ce qui est très intéressant, je pense qu'il faut vous en parler, parce que pour quelqu'un qui, comme vous, a passé sa vie à étudier de la culture antique, vous avez une phrase comme ça, un moment un peu liminaire, qui consiste à dire « Non, non, mais attendez, finalement, la civilisation européenne est beaucoup plus médiévale et chrétienne qu'elle n'est antique. » Donc ça, je voulais vous parler là-dessus. Et qu'est-ce que c'est, finalement, que cette civilisation chrétienne comment est-ce qu'on peut la définir? Et là, vous vous lancez dans une série de cinq, dans mon souvenir, éléments disant elle pose des problèmes dans son rapport au pouvoir, dans son rapport aux femmes, dans son rapport à la peur comme instrument de gouvernement, etc. Et que c'est ça qui est fait l'objet de la critique.
Oui. Alors, effectivement, je pense que la première chose à faire face à ces mouvements donc dits de cancel culture qui remettent en cause tellement de choses qui, pour la plupart des gens de mon milieu, c'est pour ça que c'est important de parler de la détermination sociologique, relèvent de quelque chose comme le sacré, disons, des grands hommes, Churchill, des grandes œuvres, etc. Donc pour un certain nombre de personnes de mon milieu, la première réaction, c'est toujours l'indignation, le mépris, la dénégation, la moquerie, etc. Et moi, ma réaction a été tout de suite celle de l'intérêt, en fait. Je me suis dit, mais c'est intéressant parce qu'au fond, c'est ce qui est reproché à la culture européenne, ce qui est reproché à tel ou tel personnage, à telle ou telle œuvre de la culture européenne est vrai. Par exemple, dire que Churchill est raciste, c'est vrai. On ne peut pas absolument pas le nier. Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Et donc, une des premières choses que j'ai voulu faire, du coup, c'est essayer de comprendre, comme vous l'avez dit, d'où vient ce contentieux, d'où vient le problème. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose dans la culture européenne qui indéniablement justifie cette hostilité et justifie cette demande de reddition de comptes. Et alors, du coup, je me suis lancé dans cette esquisse, dans la première partie du livre, sur l'origine de la culture européenne. Alors, en effet, je ne situe pas le commencement de la culture européenne dans l'Antiquité gréco-romaine, parce que, justement, j'ai suffisamment étudié l'Antiquité pour savoir combien c'est un monde qui nous est étranger, qui nous est aussi étranger que le monde de la Bible. Donc, il faut bien distinguer entre un monde qui nous sert de référent, un monde qui nous a légué des textes qui ont façonné nos catégories, nos notions, etc., et un monde où s'ancre réellement notre civilisation. Donc, on dit très couramment l'Europe commence en Grèce, mais on va jamais dire l'Europe commence en Terre Sainte. Bon. Eh bien, c'est pareil, en fait. Et on ne le dit pas parce que la Terre Sainte, ça paraît loin, c'est l'Orient, alors que la Grèce est en Europe. Mais en réalité, la Grèce antique est aussi éloignée de nous que le monde de la Bible. Donc, quand commence l'Europe, pour moi, elle commence avec la christianisation de l'Empire romain d'Occident. Et c'est là que se mettent en place un certain nombre de traits, un certain nombre de strates qui sont aujourd'hui encore essentiels, structurants dans notre monde. Et alors, parmi ces traits, il y a d'une part un avilissement de la femme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il y a dans la société européenne une domination masculine, puisque ça, c'est un trait, Françoise Héritier l'a bien montré, qu'on rencontre dans toutes les sociétés humaines, mais c'est qu'il y a, en plus de cette hiérarchie, il y a également tout un discours avilissant, dégradant, qui prend pour objet les femmes, et qu'on va rencontrer, effectivement, dans la littérature, très facilement. Bon, dans le livre, je prends l'exemple de Carmen, de la Carmen de Bizet, puisque donc un des exemples que je prends, c'est ce metteur en scène qui a estimé qu'il fallait remplacer la fin de Carmen. Donc, c'est plus Carmen qui est tuée, c'est Carmen qui tue Don José. Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est... je suis pas d'accord avec ça, mais pour autant, il faut reconnaître que le texte de la Carmen de Prosper Mérimée, hein, pas de Bizet, mais le texte de Mérimée est un texte presque insoutenable, la façon dont la femme est décrite dans Mérimée. Donc il y a déjà ce discours d'avilissement de la femme commence avec la christianisation de l'Empire romain d'Occident. C'est pas du tout des choses qu'on rencontre dans l'Antiquité. Bon, je donne des exemples sur lesquels je pourrais revenir. Bon, et puis ensuite, il y a l'autre trait extrêmement important, c'est comment est-ce que je pourrais dire, vers le XIVe siècle, l'émergence d'une société de plus en plus intolérante. L'imposition à l'ensemble du monde soumis à l'Église et aux États chrétiens, l'imposition d'une orthodoxie, d'une uniformité de pensée qui est elle aussi sans exemple dans l'Antiquité et qui va, et c'est là où on en arrive aussi à notre affaire, et qui va comporter, entre autres, un dispositif nouveau consistant à désigner ce qu'on appelle un ennemi intérieur, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui, dans la société, met en danger l'unité du corps social. Et vous savez que l'Église au Moyen-Âge ne désigne pas du tout comme aujourd'hui simplement l'Église au sens religieux, c'est vraiment la société chrétienne. Et donc ce personnage de l'ennemi intérieur, ça va être le juif, ça va être le musulman, ça va être l'hérétique, ça va être le lépreux. Et en fait, ce personnage de l'ennemi intérieur, il nous poursuit aujourd'hui. Quand j'étais, je l'ai vu même dans le cours de ma vie, j'ai vu comment les pouvoirs désignaient aux populations différents ennemis intérieurs. Alors ça varie d'intensité, mais il y a, quand j'étais à l'époque où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'était les sans-papiers, on parlait des sans-papiers, etc. Bon, mais avant Sarkozy déjà. Puis après, c'était les Roms, beaucoup à l'époque où M. Valls était ministre de l'Intérieur, c'était beaucoup les Roms, on s'est beaucoup parlé, les Roms, etc. Rappelez-vous M. Hollande avec Leonarda, je crois. Et puis, aujourd'hui, ça va être les migrants. Pensez à M. Zemmour avec les musulmans. Bon, voyez, cette figure de l'ennemi intérieur accompagne notre histoire depuis le Moyen Âge. Et cette figure de l'ennemi intérieur implique évidemment toute une hiérarchie, là encore, qui n'est plus une hiérarchie masculin-féminin, mais une hiérarchie entre la majorité et les minorités, entre les blancs et les non-blancs, entre l'Occident et l'Orient, etc. Et ça, vous pouvez le décliner de tas de façons. Et cette hiérarchie a évidemment nourri, inspiré la conquête du monde par l'Europe. Donc la colonisation du monde par l'Europe. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une immense, à mon avis, c'est une immense reddition de comptes, une immense demande de reddition de comptes par rapport à cette histoire. Et il est vrai que dans l'éducation traditionnelle, dans l'éducation habituelle, dans l'éducation majoritaire que nous recevons aujourd'hui en France, mais je pense que ça vaut pour l'Europe, ces questions-là ne reçoivent pas la place qu'elles devraient recevoir. Et les personnages de l'histoire, les personnages de notre histoire, les œuvres de notre littérature et de nos différents arts sont toujours présentés sous une forme absolument comme c'est ce, pourquoi je parle d'histoire sacrée, c'est toujours présenté comme des monuments absolument intouchables. Et donc dire de Churchill qu'il était raciste ou dire de la Carmen. Mais je ne pense pas tellement d'ailleurs à la Carmen de Bizet, qui à mon avis en soi n'est pas du tout une œuvre misogyne, mais je pourrais développer, mais en tout cas qu'il y a effectivement des œuvres qui posent en effet problème. Alors la question est, et qu'est-ce qu'on fait à partir de là?
Sachant que ce que vous dites aussi, ce que vous avez évoqué là, c'est que à sa façon, cette culture européenne christianisée est elle-même une culture de l'annulation des autres cultures. C'est-à-dire que elle est elle-même, via les conquêtes, via la colonisation, via le travail qui a pu se passer aussi bien en Amérique du Nord que du Sud, elle a, ou même dès le départ, dans le rapport du christianisme au paganisme, même s'il y a eu des effets d'intégration, mais il y a l'idée qu'il y a dans l'espace public des choses qui peuvent être présentes et qui sont légitimes, l'orthodoxie, etc., comme vous l'avez développé, et des choses qui n'ont pas à y être. Et ces choses-là, au mieux, on les efface, au pire, on les éradique par la violence.
Absolument. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un peu comique de dire que nous, alors je dis le nous, encore une fois, je parle des gens de mon milieu, donc les gens qui sont les représentants de la culture européenne légitime, disons, que nous serions les apôtres de la tolérance, du maintien des différentes cultures, et qu'en face, nous aurions des gens qui seraient pour la cancel culture, puisque la culture européenne, en effet, a conduit à l'annulation de centaines de cultures. Je dis des centaines parce que je pense au nombre de langues indiennes qu'il y avait en Amérique du Nord. Bon, il y avait des centaines de langues. Bon, tout ça a disparu. Les vestiges matériels ont quasiment tous disparu. Les récits, c'est absolument tragique. Et c'est absolument tragique. et inconcevable la destruction que l'Europe a fait subir au monde en termes d'histoire de la destruction que l'Europe a provoquée dans le monde, la destruction non seulement évidemment des vies humaines et des biens matériels, mais aussi des cultures des différentes sociétés humaines.
Alors, pour revenir à un deuxième moment, ce que vous dites aussi, c'est que donc l'un des intérêts de la cancel culture, c'est de mettre le doigt sur des problèmes réels. Alors, il y a ce premier problème qui est quel est le statut historique de la culture dite européenne. Et l'autre point qui, moi, me semble aussi très décisif dans cette analyse-là que vous faites, c'est de dire, mais qu'est-ce que c'est que la culture aujourd'hui ? Plutôt que de crier, comme certains le font, culture, 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 finalement, quel rapport on a réellement à la culture ? Et ce que vous pointez, c'est de dire, vous l'avez évoqué, on a ce que vous appelez une attitude sacerdotale, c'est-à-dire la culture, c'est sacré, on n'y touche pas. Mais ce que vous pointez néanmoins, c'est de dire, de fait, réellement, c'est quoi la pratique quotidienne de ce qu'on appelle le corpus ou le canon, on y reviendra aussi, dans le champ de la culture, et que finalement, le rapport de désinvestissement réel par rapport à la culture, c'est-à-dire les gens qui lisent des livres, profitent des œuvres et font quelque chose avec ça, le déclin de ce rapport vivant à la culture, il est très antérieur à l'apparition de ce qu'on appelait la cancel culture.
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Je voudrais dire deux choses. D'abord, c'est vrai, il y a un lien consubstantiel qu'on observe très très souvent entre culture et pouvoir. C'est-à-dire que la culture, le fait d'être un homme cultivé, très souvent, trop souvent, vous donne du pouvoir. Et à mon avis, trop de gens utilisent leur culture ou la culture comme un moyen de domination pour en imposer aux autres. Et là aussi, je parle de ma subjectivité. Moi, j'ai toujours eu cette idée de la culture que la culture devait être un instrument de libération et que être cultivé sans tenir compte des situations d'injustice qui nous entouraient, ça n'avait aucun sens. Pour moi, la culture est forcément, et c'est pour ça, enfin, c'est le seul sens que je pourrais donner à l'idée que la culture est un humanisme. Pour moi, la culture doit nécessairement aller de pair avec une visée d'émancipation. Mais je sais bien, et je l'ai constaté au cours de ma vie, que cet idéal n'est pas partagé par la plupart des gens de culture. La plupart des gens de culture sont au mieux indifférents aux injustices sociales ou politiques qui les entourent, et au pire, les cautionnent, les favorisent, voire les encouragent. Bon, ça, c'est un premier point. Et cela explique cette attitude sacerdotale dont je parlais, c'est-à-dire que la culture comme instrument de domination implique effectivement tout un dispositif sacral, évidemment, autour d'elle. Il y a certaines œuvres qui sont de la culture, d'autres qui ne sont pas, certaines connaissances qui valent pour culture, d'autres pas. Et voilà, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et puis je m'arrêterai là pour cette question, c'est effectivement que nous assistons depuis, je pense, deux siècles à peu près, à une diminution absolument évidente, progressive, de la culture, de la place de la culture dans la société. Être cultivé avant la Révolution française, eh bien, c'était essentiellement quelque chose qui était destiné ou bien aux gens de lettres, ou bien à une certaine aristocratie. Et puis après, s'est posé le problème de la démocratisation de la culture avec l'enseignement. Et très vite, on voit que cette démocratisation de la culture pose problème, en fait. Donc, la diminution des heures de latin, de grec dont on parle, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout un phénomène récent. En fait, ça vient de très, très loin. Et simplement, bon, il y avait un tel capital de prestige au départ autour de ces matières qu'elles ont pu survivre longtemps. Elles ont longtemps été défendues. Mais aujourd'hui, on voit bien sûr qu'il y a une perte de prestige liée à ces matières qui favorise non seulement leur déclin, mais vraiment peut-être même leur extinction. C'est aussi pour ça donc, que j'ai senti le besoin de prendre position dans ce débat. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce déclin, cette extinction depuis deux siècles? C'est parce que se met en place depuis deux siècles une société qui est la société capitaliste, qui donc après avoir mis à bas la société féodale, a de plus en plus structuré le monde dans lequel nous vivons.
Et alors c'est très important ce que vous dites, puisque en disant cela, vous vous opposez à ceux, vous citez, alors Steiner en fait partie par exemple, qui disent effectivement la rupture entre démocratisation et culture, et en fait le fait de la démocratisation. C'est une vision, on va dire, aristocratique, qui consiste à dire, en fait, il n'y a pas de lien consubstantiel entre culture et démocratie, et finalement, il y a l'idée qu'une vraie culture, elle n'est pas vraiment partageable. Donc il y a une partie des tenants sacerdotaux de la culture qui sont un peu dans cette idée-là. Ce que vous dites, vous, c'est plutôt, en fait, il y a, sans logique complotiste du tout, mais c'est relativement un fait organisé, la déculturation, si l'on veut dire, démocratique, puisqu'en fait, dans l'idée de la reproduction de la force de travail, pour employer ce vocabulaire-là, la culture n'est pas un élément essentiel. Comme vous dites, c'est un capital symbolique, donc très utile pour le pouvoir. Par contre, le fait de cultiver massivement l'ensemble des éléments d'une société, dans un projet purement capitaliste, ce n'est pas un horizon nécessaire.
Oui, et absolument. Et non seulement ce n'est pas nécessaire, mais même ça peut être nuisible. C'est-à-dire que je pense que les élites dirigeantes verraient avec soupçon l'émergence d'une société constituée de citoyens qui soient tous cultivés, qui soient tous capables de réfléchir par eux-mêmes. Et parce que la culture, c'est pas juste l'accumulation de connaissances, c'est pas juste être un dictionnaire farci de références. La culture, c'est à la fois des connaissances qui permettent de réfléchir dans le monde à partir de l'expérience et des expériences passées. Et ça veut dire donc que la culture permet l'émergence d'un corps de citoyens conscients, critiques, parce que la culture implique la critique. La culture n'est pas simplement une espèce d'expérience de l'enchantement, « Oh, comme c'est beau », etc. Non, c'est aussi une réflexion. Mais alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, j'en parle un peu dans le livre aussi. Bien sûr que c'est aussi important d'être simplement émerveillé par un opéra, par un tableau, mais la culture ne se limite pas à cela, c'est aussi une réflexion sur les conditions de production de ces œuvres, sur le témoignage qu'elles nous apportent sur le monde qui a donné naissance à cette œuvre. Et il est absolument évident que les élites dirigeantes depuis des années, de gauche ou de droite, ont un idéal, et cet idéal est plutôt un idéal qui cherche à construire une société de personnes polyadaptables, flexibles, et surtout pas de personnes qui réfléchissent, qui ont une richesse intérieure. On voit très bien, par exemple, dans les... c'est très, très frappant, surtout avec Monsieur Macron. Je veux dire, quand on voit le personnel qui l'entoure, personnel du gouvernement, y a une espèce de fadeur, d'insipidité, de pure, j'allais dire, de pure effectivité technocratique, administrative, qui est extrêmement révélatrice de cet idéal d'une société sans individus, avec simplement des espèces de personnages toujours habillés pareil, qui tiennent des discours, une langue, cette langue grise, cette langue nulle, enfin, je veux dire nulle au sens vraiment strict du terme, une langue sans valeur. Vous savez, on dit chez les philologues la valeur d'un mot, pour dire le sens d'un mot. C'est vraiment des langues, des discours sans valeur réelle, sans poids, sans pensée. Et donc, c'est extrêmement frappant.
Alors, c'est important que là, vous évoquiez en passant la philologie, parce que vous en parlez évidemment aussi dans le livre, à travers aussi de la référence que vous faites à Walter Benjamin et à ce que vous appelez le rapport distant à la culture, qui n'est pas du tout, au contraire, justement, un rapport de surplomb ou de dire c'est une chose inutile, mais de dire effectivement, comme vous l'avez évoqué là, c'est un rapport critique et que finalement, la culture, ce n'est pas une accumulation, mais c'est une compétence jusqu'à un certain point, qui est une compétence qu'on pourrait globalement caractérisée par celle de savoir lire, et qui est la compétence du philologue. Mais savoir lire, ouais, à la fois très très matériellement, et aussi ce que ça veut dire, c'est de dire en fait on est entouré d'un univers de signes, et que notre travail d'être cultivé, c'est justement la capacité à lire ces signes-là.
Oui, tout à fait. Je pense que notre programme doit être celui de construire une société où les citoyens soient éduqués à la philologie, au sens le plus large du terme, mais aussi au sens le plus étroit du terme. Comment se construit un texte ? Parce que comment se construit un texte, c'est aussi comment se construit un fait. Comment est-ce qu'on établit un fait ? Ce que veulent dire les mots. Je suis très... Une des choses dont je suis le plus fier, c'est... bon, puisque, donc, vous l'avez dit, c'est... Une partie de ces textes a été écrit en tant que journaliste, en un sens, ce sont des tribunes que j'ai publiées. Et donc, dans cette période de ma vie, j'ai écrit en effet un certain nombre de textes comme ça sur d'autres sujets. Et notamment, une des choses dont je suis très fier, c'est que j'ai prévu, dès le lendemain de l'élection de M. Biden, j'ai prévu qu'il n'y aurait pas de transfert du pouvoir pacifique à Washington. Et pourquoi est-ce que je l'ai prévu ? Non pas parce que je suis extra lucide, mais parce que j'ai été attentif à des mots, et à des mots prononcés par M. Trump, qui disait simplement qu'il n'y aurait pas de transfert pacifique du pouvoir. Et j'ai pris au sérieux ces mots parce que j'ai une espèce de tout simplement d'habitude philologique à prendre au sérieux les mots. Et puis j'avais déjà beaucoup écouté... Monsieur Trump, donc je me suis dit, mais à mon avis, c'est vrai. Quand il dit ça, c'est vrai. Et j'ai écrit un texte qui s'appelle Monsieur Trump au pays des autruches pour critiquer l'absence totale de préparation des démocrates à ce problème qui me paraissait se poser. Mais je vous dis, j'ai écrit ce texte et très très vite. Et moi-même, je pensais que j'exagérais, j'étais pas sûr de... Et je l'ai proposé donc au journal, et le texte a été refusé, parce qu'on a pensé que j'étais un peu exalté, et je pensais qu'ils avaient peut-être raison, et du coup, je l'ai publié sur mon blog de Mediapart. Vous voyez, bon, et puis finalement, il y a eu le 6 janvier. Alors à ce moment-là, évidemment, j'avais préparé, donc j'étais prêt, donc j'ai écrit plusieurs tribunes sur ce sujet. Mais voilà, pour vous dire, je pense que il est absolument fondamental d'éduquer les citoyens à la philologie. Qu'est-ce que c'est qu'un texte ? Que veulent dire les mots ? Parce que je pense que c'est vraiment une des armes pour se protéger et pour protéger la démocratie.
Alors, c'est justement, on arrive au cœur, on va dire, de la tension fructueuse, hein, mais qui habite votre livre, qui est de dire, effectivement, il y a cette première partie qu'on vient d'évoquer là, et puis la seconde, où vous prenez des cas concrets de mise en œuvre, si l'on veut, de la cancel culture. Et le premier cas que vous étudiez longuement, qui est la question de ce que les Américains donc, appellent les classiques, donc ce qu'on va appeler en gros l'équivalent de, des études de lettres classiques en France, et dans lequel, alors vous décrirez peut-être plus précisément le cas, mais un grand enseignant américain dit il y a un problème sur la discipline, il faut en changer les conditions d'enseignement parce qu'elle a été longtemps tenue par des gens qui s'en sont servis pour asseoir un pouvoir, etc. Et là où vous, après avoir été, on va dire, compréhensif dans une première partie, vous êtes critique dans une seconde, c'est que vous, ce que vous montrez, c'est qu'un certain nombre de tenants de la cancel culture, au nom des bonnes questions qu'ils posent, proposent des solutions qui sont, entre guillemets, pas pires que les problèmes qu'ils soulèvent, mais qui sont extrêmement problématiques, et entre autres, par rapport au point que vous avez évoqué à l'instant, qui est de dire qu'il est un renoncement, justement, à la compétence et à la compétence scientifique du savoir, qui est comme la seule voie par laquelle on va élaborer une pensée dialectique.
Oui, alors, effectivement, alors c'est intéressant que vous parliez de tension entre les deux parties, parce que c'est tout à fait vrai. En fait, la deuxième partie est constituée de tribunes, donc de textes dans lesquels je critique un certain nombre de phénomènes liés à la cancel culture. Et la première partie, en fait, au départ, était une introduction générale. C'était peut-être une introduction, et en réalité, c'est devenu une première partie à part entière. Mais dans la première partie, évidemment, je prends j'ai un ton différent parce que ce n'est pas une tribune. Mais cela étant dit, cette tension n'exclut pas du tout la cohérence. C'est-à-dire qu'en effet, vous l'avez dit, au fond, il y a la cohérence consiste à dire ceci: les questions posées sont importantes et justifiées, mais les réponses proposées sont potentiellement catastrophiques. Donc l'exemple que vous prenez est en effet celui des classiques aux États-Unis, où donc ce professeur de Princeton prétend au fond qu'on pourrait songer à tout simplement supprimer les départements de latin et de grec, et disperser les enseignants dans des disciplines telles que l'histoire ou telles que l'archéologie, ou il y en avait encore une autre, je me rappelle plus, langue ou humanité, je ne sais pas, mais que la discipline méritait au fond de mourir parce que elle avait joué un rôle important dans le suprémacisme blanc, dans cette vision et cette société raciste, coloniale, qui a dominé le monde jusqu'à récemment. Alors, bon, c'est une évidence. Enfin, donc, je ne vais pas reprendre tous mes arguments ici. Mais bon, c'est absurde, puisque tout simplement, toutes les disciplines, déjà, ont participé à cette entreprise, pas seulement les classiques. Mais c'est aussi absurde parce que la connaissance du latin et du grec, la connaissance de l'histoire antique, la connaissance de l'histoire antique, c'est-à-dire comment est-ce que les savants ont écrit l'histoire de l'Antiquité, est absolument fondamentale pour déconstruire, justement, cette hiérarchie raciale et cette hiérarchie sexuelle entre hommes et femmes. Enfin, il y a des tas de choses qui sont absurdes dans cette vision-là. Il y a aussi l'idée que la discipline pourrait survivre, mais à condition d'étudier uniquement certains aspects, certains problèmes, par exemple l'esclavage, par exemple. Bon. Mais pas d'autres, par exemple, bon, je ne sais pas, Théocrite, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, les idées de Théocrite, pourquoi les étudier? Non. Alors on va étudier, en fond, on va exporter dans l'Antiquité les problèmes actuels, problèmes de racisme, problèmes de l'esclavage, etc., les problèmes de domination masculine, mais évidemment avec nos catégories, nos a priori, etc. Bon, donc c'est totalement absurde, et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré le premier texte à ce problème.
En fait, ce que vous dites, c'est que ça pose quand même plusieurs problèmes. C'est-à-dire que ça pose le problème de la définition sous-jacente de la science, qui est quand même subordonnée à des questions idéologiques, finalement. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux problèmes qui nous intéressent. Ça pose un autre problème que vous me soulevez, et qui, je pense, est très important, qui est le rapport amateur et professionnel. Parce que, sans rentrer trop dans le détail, effectivement, l'hypothèse est de se dire, pour faciliter l'accès aux classiques, on va faire du latin et du grec des enseignements optionnels. Donc, on peut étudier les civilisations anciennes sans connaître leur langue. Ce qui est quand même un rapport, là aussi, à la science, pour le moins singulier. Et, troisième point, c'est, par rapport, pour revenir au tout début de notre échange, c'est un déni de la profonde altérité où sont ces civilisations par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on n'en finit plus de rabattre ce que nous sommes, de façon un peu égocentrée, sur ces cultures-là de 2000-2500 ans, sans du tout prendre en compte l'altérité. Donc évidemment, je ne parle même pas de d'Étienne ou de ce genre de penseurs et d'historiens qui ont passé quand même leur vie à montrer qu'on avait affaire à des cultures qui n'étaient pas homogènes.
Oui, mais ce qui est, c'est pour ça que le contexte américain est très important. C'est que mon sentiment, c'est que les tenants de cette approche ne semblent pas être au courant des développements de cette science depuis plusieurs générations déjà. Dans la mesure où, à mon avis, ils ne lisent pas ce qui n'est pas écrit en anglais. J'ai l'impression qu'ils sont totalement ignorants des travaux d'un De Tienne, d'une Florence Dupont, d'un Maurizio Bettini. Je pense que tout ça, ils ne connaissent pas. Et par ailleurs, le contexte américain est également... Bon, ça, c'est un gros problème de la science américaine en général. Je veux dire, malheureusement, il y a de moins en moins de savants américains capables de lire des langues différentes de la leur, de se tenir au courant de ce qui se publie en italien, en français, je ne parle même pas en allemand. Et ça, évidemment, ça pose un gros problème de qualité de la pensée scientifique américaine. Mais par ailleurs, il y a un autre élément dans le contexte américain qui est qu'en effet, contrairement à ce que nous avons connu en Europe, les classiques aux États-Unis me semblent avoir été une discipline particulièrement conservatrice. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des campus un peu qui ne sont pas du tout concernés, mais j'ai été témoin moi-même sur le campus où j'ai été enseigné pendant un an, pendant mes études, il y a à peu près 20 ans. J'ai été témoin, en effet, de... J'avais une étudiante... qui était afro-américaine, et elle était fille d'une arbitre de basketball. Donc, évidemment, pour moi, jeune français, totalement élevé dans l'esprit, dans le culte de la démocratie, de la méritocratie, je trouvais ça extraordinaire que la fille d'une arbitre de basketball afro-américaine, donc qui ne venait pas du tout d'un milieu de la bourgeoisie blanche, cultivée, etc. Et parce qu'elle l'avait découvert à l'école, et eu la passion du latin et du grec au point d'en faire son métier. Et je me suis aperçu, à mon grand étonnement, que mon enthousiasme n'était absolument pas partagé par le reste du corps enseignant. Et elle m'a raconté des tas de choses, des tas de brimades. Et donc, je lui ai demandé d'écrire un texte qui figure dans le livre, dans le témoignage sur tout cela. Et bon, c'est assez accablant. Donc, c'est vrai que pour aller dans le sens de ce professeur de Princeton, il y a un réel problème aux États-Unis du côté des classiques. Je dirais pas un problème de racisme, mais un problème en tout cas de cécité par rapport au problème du racisme aux États-Unis. Et je terminerai par en revenant au début de votre question. Vous parliez du rapport entre science et idéologie. Oui, l'activité scientifique, l'activité du chercheur doit constamment être attentive aux présupposés idéologiques dont il n'a pas nécessairement conscience. Et il est absolument certain que la pratique du latin et du grec n'a jamais été idéologiquement neutre. Jamais. Et encore aujourd'hui, en ce moment, par exemple, je suis en train de travailler vraiment par hasard sur un philologue, sur un antiquisant, sur un helléniste allemand qui s'appelle Walter Otto, qui est assez connu pour son livre sur les dieux de la Grèce. Et je lisais, donc il y a beaucoup d'influence sur d'Étienne, et je lisais dans un article récent qu'en 1934, il a été contraint de succéder à Paul Maas, donc très grand philologue allemand, qui avait été chassé de son poste de Königsberg par les nazis, donc pour des raisons raciales, parce qu'il était considéré comme juif au vu de je ne sais plus quelle loi. Donc Paul Maas est chassé de son poste, et on lit absolument partout que Otto a été contraint de le remplacer. Et j'ai écrit à cette collègue qui avait écrit ce texte, et j'ai dit, mais parce que c'est 100 notes de bas de page, comme ça. Et j'ai dit, mais d'où ça vient cette idée, vous voyez, bon. Et alors, de fil en aiguille, je remonte un petit peu, puisqu'elle me donne une source qui, en fait, c'est pas vraiment une source, c'est la littérature secondaire. Et en fait, je me rends compte qu'il y a cette espèce d'idée que M. Otto a été contraint. Mais pour l'instant, alors je ne dis pas que c'est faux, mais pour l'instant, je ne trouve rien. C'est-à-dire qu'il y a une orientation idéologique, une orientation morale dans notre travail qui consiste à dire, mais un grand helléniste ne peut pas être un mauvais homme. Et donc, par conséquent, évidemment, c'est un petit peu gênant de prendre la place d'un professeur chassé pour des raisons raciales, surtout quand c'est le plus grand philologue de son temps. Donc, il a forcément été contraint. Et on va essayer, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, c'est un travail qu'on doit faire constamment.
Alors, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on va arriver à la fin de l'entretien, mais c'est aussi la question qui se pose au travers de la question des statuts, qui est vraiment un bloc au sein de votre livre, que j'invite évidemment les lecteurs à lire, dans le détail duquel on ne peut pas rentrer. Mais parmi les problèmes que pose la cancel culture, c'est quand même l'idée que c'est un monde binaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que vous venez d'évoquer là, très précisément dans le cas que vous soulignez, c'est de dire en fait il y a des bons et des mauvais. Et quiconque a eu un rapport au savoir, à la science, etc., sait très bien qu'il est impossible de penser comme ça, et qu'au contraire, même en tant que lecteur de littérature, on n'a aucune passion pour les personnages tout bons ou tout mauvais. Ce qui nous intéresse, c'est Monte Cristo qui passe son temps à être alternativement l'un et l'autre. Et ce que vous dites, pour finir, et l'autre point qui est très important, c'est que finalement, cette question écarte de questions encore plus essentielle, entre autres autour de la question sociale, et que finalement elle est la reconduction par ceux qui en sont victimes d'un prisme racial. Alors, au sens où peut-être les Américains entendent le mot de race, évidemment, hein, c'est toujours là pour le aussi une grande différence entre les Américains et les Européens sur l'emploi de ce mot. Mais ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire, d'un côté, le prisme, on va dire, manichéen ou au contraire puritain, parce que c'est plutôt ça la source. Et de l'autre, l'idée qu'il y a un autre problème posé par la cancel culture, qui est le fait que elle isole de problèmes qui peut-être devraient primer plus de la part de ceux qui les énoncent.
Oui. Alors là, je pense qu'il faut vraiment replacer cette crise de la culture européenne, cette crise auquel on donne le nom de cancel culture. Au fond, pour moi, c'est ça. C'était le nom qu'on donne à la crise de la culture européenne que nous connaissons. Je pense qu'il faut la replacer là aussi dans un contexte très un peu plus général. Je pense que cette vision binaire bon méchant, bon pur impur, correspond en fait à une simplification du débat, à une simplification de la vision des réalités historiques qu'on rencontre absolument partout. Je veux dire, et à laquelle je suis sensible, j'en parle déjà dans mon livre sur Lucrèce, à la fin de mon livre sur Lucrèce, c'est-à-dire que je suis frappé par la sursimplification des catégories de pensée, bon, et à ça, et on en voit des tas de symptômes. Je veux dire, bon, il y a cette espèce de pensée Twitter où il faut dire, je ne sais pas combien de signes, n'importe quoi. Mais encore un exemple récent. Pensez à la récente une du Point sur Mélenchon, l'autre Le Pen. Bon, je veux dire, c'est quand même énorme de dire ça, l'autre Le Pen. Et qu'est-ce que répond Mélenchon ? Que Le Point est un tract d'extrême droite. Je veux dire, c'est pas ça un débat. Je veux dire, on peut faire des tas de critiques à Mélenchon, mais dire que c'est l'autre Le Pen, c'est quand même fort de café. Et de l'autre, il aurait pu répondre par le haut, essayer de déconstruire, Non, il répond, Le Point, c'est un tract d'extrême droite. Bon. Et ça, je veux dire, je note qu'il y a de plus en plus d'exemples comme ça. Je pense aussi à la polémique qu'il y avait eu entre Edoui Plenel et Rhys de Charlie Hebdo, où vraiment c'était des insultes absolument mais terribles. Enfin, je veux dire finalement, Edoui Plenel s'était excusé, ce qui est déjà beaucoup, qu'il faut saluer. Mais je veux dire qu'il y a, je trouve, une espèce de brutalisation, pour employer la catégorie de George Mauss par rapport aux sociétés de l'entre-deux-guerres, il y a une brutalisation du débat qui est liée effectivement à un appauvrissement de la culture, un appauvrissement de la pensée, un appauvrissement des connaissances, qui fait que on arrive à un point où, s'il faut résumer Napoléon en 132 signes, non, bon, on va dire esclavagiste, Churchill raciste, et puis après on mettra Churchill et Hitler dans le même sac, puisqu'ils sont tous les deux racistes, donc n'est-ce pas? Effectivement, il y a cet aspect-là, oui.
Écoutez, merci beaucoup, Pierre. Je pense que c'est très, très important que vous ayez pu soulever ces différents aspects de la cancel culture et aussi la façon dont, comme vous le soulignez parfaitement dans votre livre, ça vient très profondément interroger l'usage que nous avons nous-mêmes de la culture. Merci beaucoup, Pierre Vesperini.
Merci à vous. Merci beaucoup.